Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins, on est ensemble jusqu'à 11h. Hey, you know what? Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans Geneviève Méric, Sophie Marchand, Tristan Grenastia et Géraldine Mosna-Savoie, ni sans François Connac, cette semaine à la réalisation, avec aujourd'hui à la technique, Jean-Guilain Mège. À 10h50, nous mettrons le cap vers l'actualité éditoriale philosophique avec le Journal de la philosophie, présenté par François Nudelman, qui recevra aujourd'hui Yann Birchall pour vous parler de son livre « Sartre et l'extrême gauche », paru aux éditions La Fabrique. C'est le quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à la solitude. Après avoir évoqué les figures solitaires de Robinson Crusoe, de l'écrivain et du mystique, c'est aujourd'hui du philosophe américain Henri David Thoreau que nous allons parler, et plus précisément de son livre « Walden », qui décrit le séjour de 2 ans, 2 mois et 2 jours passé dans une cabane sous les arbres et au bord d'un lac. Retour à l'état sauvage, béatification de la nature, misanthropie sans appel, pas si sûr, car quand on y regarde de près, l'écrivain était à quelques kilomètres seulement de son village natal, où il se rendait quasi quotidiennement, et il multipliait les rencontres avec ses amis. Pourquoi donc choisir de vivre dans les bois pendant 2 ans, sans pour autant rompre tout commerce avec la société ? Cette expérience marque-t-elle l'absurdité du projet solitaire, ou l'impossibilité de mettre en œuvre une solitude aux vertus bénéfiques, mais irréalisables ? Condamné à l'insociable sociabilité, si l'homme des villes et l'homme des bois ne se sent jamais assez seul, c'est sans doute parce qu'il est toujours déjà trop seul. Quand j'ai écrit les pages suivantes, ou la plupart d'entre elles, je vivais seule au milieu des bois, à 1 mile de mon voisin le plus proche, dans une maison que j'avais construite moi-même, sur la berge du lac Walden, à Concord, Massachusetts, et je gagnais ma vie grâce au seul travail de mes mains. J'habitais là 2 ans et 2 mois. À présent, je séjourne de nouveau dans la civilisation. Michel Granger.
Bonjour.
Lorsque Henri David Thoreau rédige les premières lignes de son texte consacré à Walden, donc, il insiste bien sur le fait que ce projet d'aller vivre dans les bois près du lac de Walden était provisoire, puisqu'il écrit dès le premier paragraphe « À présent, je vis de nouveau au sein de la civilisation ».
Oui, c'est effectivement une expérience, une expérimentation à durée limitée. Et donc le sujet de la solitude est quelque chose qui n'est qu'un moment de sa vie en tant qu'expérience, le séjour dans la cabane. Mais il y aura aussi à voir qu'après donc, cette période de 1845 à 1847, pendant un certain nombre d'années, jusqu'en 1854, il réécrit le livre « Walden ». Il l'écrit, il le réécrit. Et que dans cette même période, c'est la troisième chose, il écrit un journal et qu'il continuera à l'écrire jusqu'à la fin de sa vie. Donc il y a en somme trois taureaux. Il y a celui de la cabane, celui du livre Walden et celui du journal. Mais les trois se chevauchent d'une certaine façon. Et ce qu'il faut voir à propos de l'expérience dans les bois et à côté du lac, c'est qu'il n'est pas complètement misanthrope. Il n'est même pas misanthrope. Il rentre dans sa famille très souvent. Et que le reste de sa vie, il va la passer dans la maison familiale. Il n'habite pas tout seul. Il habite dans la maison familiale, chez papa et maman. Et le reste du temps, il vit chez Emerson. Il aura passé, je crois, près de 3 ans à vivre chez le philosophe. Donc, c'est un solitaire, mais qui vit en famille, chez Emerson ou au village.
Voilà, Emerson, donc Ralph Waldo Emerson, qui lui aussi vivait à Concorde, enfin en tout cas déménageant ensuite à Concorde, un pasteur avec qui il a fondé un courant qu'on appelle le transcendantalisme, qui a donné lieu au perfectionnisme moral. Donc on va essayer peut-être de définir ces termes au cours de cette émission, puisque cela permet de comprendre en profondeur le projet même de Thoreau lorsqu'il se rend à Walden. Vous avez commencé en disant c'est une expérience. Mais quel genre d'expérience est-ce que Thoreau veut mettre en œuvre à ce moment-là? Quelle théorie veut-il mettre en pratique en allant passer 2 ans dans les bois?
Alors c'est une expérience en opposition à la société, d'une certaine façon une expérience anti-moderne. Essayer de retrouver les nécessaires de vie, les choses indispensables. Donc c'est décaper la vie d'un individu qui est manipulé par la société, qui est aliéné par la société, et retrouver ce qui est fondamental, ce qui est essentiel pour une vie bonne. C'est donc un projet philosophique. Et s'installer à Walden, c'est un geste philosophique qui dure le temps d'une démonstration. Mais cette démonstration concrète doit trouver sa diffusion, et c'est pourquoi il faut l'écrire. Et c'est ce qui va passer un certain nombre d'années à faire par la suite.
Si bien qu'on peut comprendre le projet même de s'isoler dans les bois, s'isoler de manière relative, hein, on l'a vu, est à comprendre à la lumière du projet d'écriture qui suivra cette expérience.
Voilà.
C'est vraiment pour donner lieu à un texte qui vient théoriquement expliquer cette expérience.
On a souvent l'impression qu'il a prévu son œuvre littéraire. C'est pas vrai, mais on a presque l'impression qu'il a eu des moments de vie pour pouvoir les écrire. Et Walden en est un essentiel. Alors, l'aspect qu'on n'a pas évoqué, sur lequel il faudra revenir, c'est le fait que cette expérience de vie qu'il raconte dans Walden, en particulier dans le chapitre économie, où il dit quelle est son économie de vie, inclut un élément essentiel qui est la nature. Il s'agit d'aller vivre de façon simple, c'est la simplicité volontaire, mais dans la nature, au bord d'un lac, dans les bois, c'est quelque chose qui n'a de sens que dans la nature. Donc on a d'un côté la société, celle du 19e, celle du capitalisme industriel, celle du commerce, celle de la mode, et d'un autre côté, la nature aussi sauvage que possible.
On a vu cette semaine, en évoquant différents aspects de la solitude, hein, puisque nous consacrons toute cette semaine à la solitude, et c'est aujourd'hui le dernier jour, que bien souvent l'entreprise des solitaires, de ceux qui cherchaient cette solitude chérie mais si difficile à atteindre, au moment même où ils se détournaient des hommes, rencontraient la nature, comme si le fait de se défaire de la société permettait de faire sauter les verrous, faire sauter un écran qui se situe entre nous-mêmes et la nature. Et là, on retrouve exactement cette position-là, comme si toute solitude allait de pair avec une forme de contemplation de la nature.
Oui.
Michel Granger.
L'expérience de la cabane, c'est s'éloigner du centre du village, c'est s'excentrer, s'éloigner du centre du village et trouver la nature avec aussi peu d'obstacles. Il dit d'ailleurs que dans cette cabane, il entendait les oiseaux même quand il était à l'intérieur de la cabane. Donc c'est un contact aussi direct possible, sans intermédiaire, sans brouillage, sans bruit. Il faut voir que lorsqu'il vivait chez lui, il était dans une maison où on entendait tout d'une pièce à l'autre. Un jour, il a cette très belle anecdote, il entend sa tante crier qu'il a refusé de lire tel livre plutôt sain, tout simplement parce qu'il avait passé son après-midi à aller écouter les grenouilles. Voilà. Donc quand il est dans la nature, quand il est dans sa cabane, il peut entendre les grenouilles, les nocturnes.
Mais son rapport avec la nature est plus qu'anecdotique, ou qu'il a à comprendre autrement qu'en termes de confort ou de plaisir esthétique, puisque Emerson, vous avez parlé d'Emerson tout à l'heure, a lui-même écrit un texte sur la nature.
Oui.
Et cette notion même de nature est à comprendre à la fois en opposition et en rapport avec le romantisme lui-même,
oui,
qui a lieu en Europe à ce moment-là, et dont Emerson et Thoreau vont tirer des leçons, hein, de ce romantisme-là, puisqu'il y a de nombreuses pages écrites par Thoreau dans ce texte Walden, où la description de la nature n'est en réalité qu'une façon de refléter son âme. Et il voit, peut-être selon ce qu'on pourrait appeler une théorie des correspondances, hein, quand il regarde la nature, la contemplation de la nature est en réalité une manière de ressaisir son âme.
Oui. Thoreau, qui aurait voulu être parfaitement original, ne l'est pas. Il a été formé au sortir de l'université Harvard par le transcendantalisme et par ses contacts quotidiens avec Emerson. Donc il est soumis à l'influence du transcendantalisme, du romantisme qui précède. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement comment il a dépassé ce stade-là pour avoir le contact direct, concret, sensuel avec la nature. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette sensualité. C'est pas une nature imaginée, c'est pas une nature abstraite, c'est une nature très concrète, très vécue.
Singulière expérience que ce commerce prolongé entretenu avec les haricots. Planter, sarcler, récolter, battre, trier, vendre, cette dernière opération étant la plus pénible de toutes, et j'ajouterai manger car bien sûr, j'y goûtais. J'étais bien décidée à travailler pour des haricots. Alors qu'ils poussaient, je sarclais de 5h du matin jusqu'à midi et occupais d'habitude à d'autres affaires le restant de ma journée. Pensez au rapport intime et curieux qu'on a avec diverses sortes d'herbes. Leur liste sera un peu lassante, car le travail ne le fut pas qu'un peu. Troubler d'une main impitoyable leur délicat arrangement, procéder avec le sarcloir à des distinctions très blessantes, anéantir des rangées entières de telle espèce pour en cultiver telle autre avec zèle. Voici l'ambroisie, voici l'amarante réfléchie, voici l'oseille, voici le chiendent. Attaque-la, coupe-la, mets-lui les racines à l'air, ne lui laisse pas une seule radicelle à l'ombre, sinon elle se retournera sur le côté et après-demain, elle sera verte comme un poireau. Michel Granger, le livre Walden se compose en plusieurs chapitres. Vous avez évoqué le chapitre de l'économie tout à l'heure. Donc il y a économie, il y a lire, bruit, solitude, visiteur. Le chapitre sur le champ des haricots. Tous ces chapitres montrent bien qu'au sein de cette expérience, Thoreau va prêter attention à différents registres de cette expérience même. Et le texte que je viens de lire montre bien, sinon ce rapport sensuel aux éléments dont vous parliez, du moins le rapport non pas contemplatif, mais d'observation à la nature. Et je crois qu'il faut vraiment entendre qu'il y a les deux dans le rapport de Thoreau à la nature. Il est autant contemplatif qu'observateur, et donc autant poète que scientifique quasiment, Michel Granger.
Oui. Vous auriez pu aussi lire un tout petit peu avant où il raconte qu'il était pieds nus dans la terre. Donc il y a un contact sensuel avec la terre. Il y a effectivement l'observation et la connaissance. Thoreau est devenu un naturaliste de grande qualité. Il a même fait des découvertes. Certains de ses textes sont utilisés comme des textes scientifiques dans l'histoire de la science botanique. Donc il y avait cette description. Et dans la dernière partie de sa vie, le journal est essentiellement composé d'observations très précises pour tout savoir de la nature. Mais évidemment, il y a aussi la dimension contemplation, contact avec la nature.
Mais alors, comment comprendre cette entreprise de scientifique, d'essayer de recenser la nature, de la détailler avec minutie? Est-ce qu'il y a un rapport entre cette attention-là à la nature et son projet d'expérience dont nous parlions au début de cette émission, d'expérimenter la solitude contre la société?
Oui, il y a certainement quelque chose. Il a été soumis aux lectures de Humboldt, le naturaliste allemand, et qui lui a en somme appris l'idée qu'il était essentiel de tout connaître, que tous les faits de nature étaient liés, reliés, et c'est en cela qu'il est devenu un peu un père de l'écologie. Et donc il s'est lancé dans cette entreprise pour tout connaître. Mais tout connaître a aussi un but dont on n'a pas parlé jusqu'ici, qui est le problème pour moi essentiel d'essayer de transgresser la limite entre l'humain et le non-humain. Et c'est là que, pour moi, Thoreau est allé bien plus loin qu'Emerson dans la discussion sur la nature. C'est que Thoreau, dans sa façon de vivre, dans sa recherche, dans son observation, a cherché les moyens d'aller au-delà. Donc, il y a des passages dans le journal, par exemple, où il cherche à apprivoiser une marmotte. Dans Walden, il y a le passage très beau sur le huard, un plongeon. Et il cherche à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'oiseau. Donc, d'une certaine façon, à certains moments, la frontière entre l'humain et le non-humain vacille, se déplace. Et c'est là qu'il vit de la façon la plus intense. Les grands moments de Thoreau, ce sont les moments où il cesse d'être purement humain pour récupérer un petit peu du non-humain. Et c'est une extension, une expansion de son existence. Et j'ai dit les animaux, mais ça peut être aussi les plantes. Quand il dit qu'il rêvait à côté de sa cabane, il a cette remarque : « J'ai poussé à cette époque comme le maïs croît dans la nuit. » La comparaison dit bien ce désir d'avoir quelque chose de végétal. De même qu'il y a aussi un intérêt pour le minéral. Essayer de récupérer quelque chose du minéral, du végétal, de l'animal, parce que, dit-il, en l'homme, il y a une nature. Nous avons une certaine nature, une nature naturelle, et il faut le retrouver. Sinon, nous nous desséchons, et c'est le problème de la civilisation, c'est de nous couper de cette qualité naturelle, animale, végétale, minérale.
C'est précisément ce qu'il reproche à la civilisation, en effet, c'est de nous imposer une manière d'être, une manière de vivre qui nous éloigne et nous détourne de notre condition naturelle. Et c'est sans doute comme ça aussi qu'il faut comprendre l'importance qu'il accorde au sauvage, au wild en anglais. Il y a de longues descriptions de ce sauvage-là, et notamment je renvoie au texte de Walden qui s'intitule « Marcher », qu'on trouve notamment aux éditions du Cahier de Lerne, où on a de longues descriptions de la nature qui rappellent, je trouve par moments beaucoup Jean-Jacques Rousseau d'ailleurs, dans ce même rapport à la nature, cette célébration lyrique mais qui est lyrique, on a l'impression que dans chaque célébration de la nature, il y a toujours un lien avec soi-même, que Thoreau ne célèbre pas la nature en dehors de toute forme d'humanité, mais au contraire, c'est lui-même, il aime à se voir lui-même se perdre dans la nature. Donc là, il me semble que c'est important d'insister là-dessus, à la fois l'éloge du sauvage, mais de l'autre, l'importance du retour à soi, qui est déterminante pour Thoreau et pour Emerson également.
Et le retour à soi, pour Thoreau, c'est le sauvage en soi. Il dit bien que s'il va dans la nature sauvage, il ne la découvrira que parce qu'il y a quelque chose de sauvage en lui. Et Thoreau, le non-conformiste, celui qui est toujours en train de protester, de dire non, de résister à la société. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a un tel intérêt pour notre
époque. Il a écrit un texte sur la désobéissance civile, il faut juste le rappeler. On connaît parfois ce texte-là, y compris en France.
C'est quelque chose qui d'ailleurs intéresse notre époque. Cet intérêt pour la nature, c'est justement parce qu'elle permet de développer en soi cette sauvagerie, pourrait-on dire, cette sauvagerie intérieure qui est la seule façon d'être vraiment soi, sans se couper de tout ce que la société cherche à dominer, à réduire. C'est une façon d'être pleinement soi, de développer toutes ses possibilités, même si la société, avec ses traditions, ses conventions, cherche à éliminer cet aspect.
Je pense qu'il est salutaire d'être seul la plupart du temps. Être en compagnie, même avec les meilleurs des hommes, est bientôt lassant et dégradant. J'aime être seul. Je n'ai jamais trouvé de compagnon qui fût d'aussi agréable compagnie que la solitude. La plupart d'entre nous se sentent plus solitaires quand ils sortent pour se mêler aux autres que lorsqu'ils restent dans leur logis. Un homme qui pense ou qui travaille est toujours seul, où qu'il soit. La solitude ne se mesure pas par miles qui sépare un homme de ses frères. L'étudiant vraiment diligent dans l'une de ces ruches surpeuplées du collège de Cambridge est aussi solitaire qu'un derviche dans le désert. Le fermier peut travailler seul dans les champs ou dans les bois, tout le jour, sarclant ou coupant son bois. Il ne se sentira pas solitaire parce qu'il est occupé. Mais lorsqu'il rentre chez lui le soir, il ne peut rester assis seul dans une pièce, livré à ses pensées. Il a besoin de s'en aller là où il peut, voir des gens, et trouver récréation et récompense, selon lui, pour sa journée solitaire. Aussi, il se demande comment l'étudiant peut rester assis seul dans sa maison toute la nuit et presque tout le jour, sans s'ennuyer, sans mélancolie. Mais il ne se rend pas compte que l'étudiant, quoique dans sa maison, est toujours au travail, dans son champ à lui, et taille son bois, comme le fermier dans le sien. Et à son tour, cherche à se divertir en société comme l'autre, bien que ce soit peut-être sous une forme plus condensée.
Of the Chantal, Ephes, and hard, carrying this. Sealed so with as a...
Michel Granger, lorsqu'on entend John Cage chanter ou parler, disons, cette musique-là, en tout cas, qui lui a été inspirée par Thoreau, ça nous permet d'aborder un point qui est assez important, qui est la postérité de l'œuvre de Thoreau, postérité littéraire, philosophique, culturelle aux États-Unis, mais également musicale. On en parlait avec François Connac ce matin, qui est à la réalisation cette semaine, qui me disait être impressionné par le nombre d'œuvres musicales qui avaient été inspirées par Thoreau.
Oui, Charles Ives, John Cage. Alors, ça vient sans doute du fait que dans le contenu de ce qu'il a écrit, il a été très sensible au bruit. Il y a d'ailleurs un chapitre de Walden sur les bruits. Il passait une bonne partie de sa journée à écouter des chants d'oiseaux. Il était capable de les repérer et c'était quelque chose qui lui était éminemment important, entendre des chants d'oiseaux, les repérer. Et après, le problème de l'écrivain qui parle de la nature, s'il n'a pas un magnétophone et un micro, ne peut rien dire. Il va falloir qu'il travaille la langue et qu'il la fasse bouger, se déformer pour essayer de dire quelque chose sur ce qu'il a entendu. Donc il y a dans l'écriture de Walden un énorme travail sur la langue pour rendre une certaine musicalité. Et là, on est à nouveau dans l'expérimentation. Il y a des passages dans Walden où, par exemple, il dit, il écoute des oiseaux nocturnes et il dit, il parle du glou-glou, d'un son qu'il entend, et il s'interrompt. Il y a des tirets, il s'interrompt et il dit qu'il est obligé, en quelque sorte, d'utiliser les lettres gl, gl, qui reviennent d'ailleurs dans un autre passage du terme. Donc, il y a quelque chose de la matière musicale. La matière langagière est une matière musicale, sonore, qui a pu intéresser des musiciens.
Pour en revenir au thème de la solitude, le texte qu'on a entendu extrait donc de Walden montre bien que la façon qu'a Thoreau de réfléchir à la solitude, il montre que pour être solitaire, il ne suffit pas d'être seul. Cette distinction est importante puisque ça montrerait que la solitude est dans le rapport à soi plus que dans l'exclusion des autres, ce qui est tout à fait cohérent avec ce que vous disiez tout à l'heure. Thoreau cherche à être pleinement soi, c'est-à-dire renouer avec cette partie sauvage de l'homme. Peut-on dire que lorsque Thoreau s'isole relativement et va vivre dans les bois, construit sa cabane pendant plus de 2 ans, c'est une manière pour lui de renouer avec lui-même?
C'est une manière de renouer avec lui-même, je suis tout à fait d'accord. Il a même un passage où il dit qu'il se perd et que la meilleure façon de se trouver, c'est d'abord de se perdre. On peut se retrouver que quand on s'est perdu. Aller dans les bois, dans les champs, dans les marécages, c'est retrouver quelque chose de lui-même. Par exemple, on a tendance à voir en lui un ascète, l'homme du froid, l'homme de la pureté qui ne buvait que de l'eau, choses comme ça. Mais c'est par ailleurs quelqu'un qui aimait bien marcher nu dans la vase des marécages. Et il en parle avec une certaine sensualité. Donc, aller dans cette nature sauvage, c'est trouver des choses qui n'ont pas place dans le personnage qu'il était lorsqu'il était au village. C'est étendre ce qu'il est et arriver à forcer les barrières, les conventions, les bonnes manières de la société.
Mais justement, qu'est-ce que Thoreau reproche à cette société-là ? Vous avez dit anticonformisme, il se sent mal à l'aise en société, il veut essayer de faire cette expérience, voire essayer d'être seul pendant quelque temps. D'un côté, que reproche-t-il à la société ? Et de l'autre, qu'est-ce que le soi ? Quand vous dites qu'il faut se retrouver lui-même, de quoi s'agit-il précisément ? Est-ce qu'il définit cette quête précisément en disant « voilà, c'est cela, ce à quoi j'aimerais atteindre ». Parce qu'on a besoin de comprendre les deux pour comprendre l'attitude de Thoreau vis-à-vis de la solitude, hein, ce qu'il recherche. Est-ce que c'est une solitude exclusive qui rejette la société ? Dans ce cas, que reproche-t-il à la société ? De l'autre, est-ce que c'est une solitude positive ? Et dans ce cas, que cherche-t-il à atteindre en restant seul ?
Alors, du côté négatif, c'est l'exclusion de la société, de l'argent, des traditions, des conventions qui briment l'individu. Du côté positif, c'est tout ce qui est de l'ordre du corps, quelque chose qui est sensuel, vivre avec son corps dans la nature. Alors, ça n'est pas un projet de société, c'est un ingrédient pour une société meilleure. Ça n'est rien de plus qu'un ingrédient. Il ne cherche pas à reconstruire une société parce qu'il n'imagine pas des institutions. Il se contente de dire il faut vivre simplement, ce qu'on appellerait la frugalité joyeuse. Et puis, il faut être soi, il faut vivre avec son corps dans la nature. Et puis, il y a aussi l'aspect contemplation qu'on a évoqué tout à l'heure, une sorte de spiritualité de la nature, quelque chose qui est plus grand que l'homme et qui, d'une certaine façon, réduit la part de la société en tant qu'institution politique ou institution financière.
Oui, mais pourtant, ça, effectivement, ce que vous dites réduit la part du poids de la politique dans son projet, et pourtant il est présent, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, il est l'auteur d'un texte qu'on appelle aujourd'hui la désobéissance civile, mais qui était la résistance au gouvernement civil, dans lequel il en appelle clairement à la guerre contre l'État. Il décide de se retirer de la vie publique, puisqu'il est contre, notamment il reproche à l'État de justifier, de maintenir l'esclavage. Il va même jusqu'à aller en prison pendant une journée, parce qu'il refuse de payer un impôt en signe de désapprobation avec la politique qui est en œuvre. Donc, il faut quand même ne pas occulter toute cette dimension politique de son attitude, oui. Y compris au sein de ce texte.
Oui, bien sûr. Il n'a pas oublié la société. Simplement, il se rend compte qu'il se perd. Il ne pourrait pas travailler dans une institution, travailler dans une association. C'est un individualiste et sa vie, elle est vraiment au contact des plantes, des oiseaux. Sauf qu'à certains moments, la société l'envahit et c'est ce qu'il dit lorsqu'il y a un problème avec l'esclavage qui devient trop net dans dans Nouvelle-Angleterre. Et à ce moment, il dit « ça me gâche le plaisir d'aller voir les nénuphars ». Donc, il essaye de ménager une vie aussi riche que possible, sauf qu'à un certain moment, le problème moral, il ne peut plus, en tant qu'homme, accepter l'esclavage. Et l'esclavage en Nouvelle-Angleterre, c'était qu'on obligeait les nordistes, qui étaient pour l'abolition de l'esclavage, à participer à la chasse aux esclaves en fuite.
Alex pourrait avoir une bagnole, lui aussi, mais il a décidé que son pognon, il fallait le brûler. Pourquoi t'as fait ça ?
J'en voulais pas. J'ai pas besoin d'argent. Ça rend prudent.
Il y a bien des cas où faut être prudent, t'exagères. C'est vrai, il est sympa, ton bouquin, là, mais se nourrir de plantes, c'est une jolie idée, mais tu vas pas aller loin.
L'essentiel, c'est pas d'aller loin, mais c'est le chemin pour y arriver.
Ton père et ta mère, ils sont où ?
Ils vivent leur vie quelque part.
Sois juste avec tes parents, t'as été aimé, ça se voit.
Faut être juste.
Tu sais de quoi je parle.
Alors je paraphraserai Thoreau. Plutôt que l'argent, l'amour, la loyauté, la gloire et la justice. Je veux la vérité.
Aucun aspect que nous puissions donner à un sujet ne nous aidera en définitive autant que la vérité. Elle seule vieillit bien. Pour l'essentiel, nous ne sommes pas là où nous sommes, mais dans une position fausse. À cause d'une infirmité de notre nature, nous imaginons une condition, nous l'endossons, et nous voilà donc dans deux conditions en même temps, d'où il est doublement difficile de s'extraire. Dites ce que vous avez à dire, et non ce que vous devriez dire. Toute vérité vaut mieux que les faux-semblants. Écoutez France Culture, il est 10h32, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance où nous parlons de solitude toute cette semaine et aujourd'hui, plus précisément du texte Walden d'Henri David Thoreau avec Michel Granger. Michel Granger, quelle différence entre le personnage de Christopher, le héros de Into the Wild, hein, le film de Sean Penn sorti en 2007, dans lequel on voit cet étudiant tout plaqué, hein, abandonner ses études et s'enfuir vivre en Alaska au milieu de la nature, et de l'autre, Henri David Thoreau, qui décide, lui non pas d'aller en Alaska, mais d'aller à 1 kilomètre de son village, de construire une cabane et de n'y passer que 2 ans.
Alors Thoreau dit qu'il voyageait beaucoup à Concorde, alors que le
Concorde est un tout petit village, hein, il faut dire, qui est à côté de Boston.
Oui, c'est un petit village. Mmh. Ouais. Bon. Il marchait à un rayon d'une dizaine de kilomètres chaque jour. L'étudiant, l'adolescent, c'est quelqu'un qui a lu Walden, qui a été séduit par le personnage littéraire de Thoreau dans Walden, et qui utilise ce livre pour régler les problèmes de sa vie. Donc il s'enfuit dans la nature sauvage et il ne sait pas qu'il faut une carte quand on ne connaît pas et il en meurt, de même qu'il n'a pas...
Il ne meurt pas de l'absence de carte, il meurt du fait qu'il ne sache pas lire son manuel de plantes qu'il devait le guider dans savoir quelle plante était comestible.
À 2 ou 3 kilomètres de là, il y avait un endroit, un refuge avec des vivres. Donc s'il avait eu une carte, il aurait su qu'à côté, il pouvait se réfugier. Donc pour moi, c'est un exemple de l'utilisation et non pas la lecture de Walden. C'est une utilisation, on saisit une idée pour justifier sa position. Mais c'est très bien, ça permet de ne pas oublier un grand classique de la littérature américaine.
Oui, mais surtout, je pense que ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est la comparaison nous montre bien que tout l'intérêt de l'expérience de Thoreau est qu'elle est extrêmement prudente, pensée, rationnelle et en vue d'un but bien défini. Et c'est souvent, quand on connaît ce texte-là, Walden, ou quand on en connaît quelque chose et qu'on ne l'a pas vraiment lu, on a du mal à comprendre cela, que c'est vraiment, et j'insiste là-dessus, même si on l'a déjà dit, c'est vraiment une expérience. Il ne dit
dit pas du tout que tout le monde devrait quitter les villes, aller vivre tout seul dans la nature. C'est pas du tout ça. Et en ce sens-là, le film Into the Wild incarne peut-être la mauvaise compréhension qu'on peut faire de Walden.
La mauvaise utilisation. Alors que ce que Thoreau cherche à enseigner, c'est dire n'oubliez pas vos racines. Et il ne cherche pas un modèle. C'est un individualiste, donc il ne propose pas un modèle aux autres, même si d'une certaine façon, inconsciemment, il y a bien quelque chose d'idéal dans ce qu'il fait, qu'il aimerait que d'autres partagent. Mais c'est l'idée simplement de périodiquement faire des incursions dans la nature. D'ailleurs, il utilise ce terme à propos de sa propre vie, ses incursions, ses promenades, ses randonnées qui étaient quotidiennes. Le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Parfois, c'était une fois, parfois, c'était deux ou trois fois. Mais ce ne sont que des incursions. Le reste du temps, il revenait à la maison et il écrivait son journal ou ses versions de Walden. Donc, ça n'est pas une vie en opposition totale à la société. C'est une opposition à certains aspects de la société. Mais l'essentiel, c'est garder le contact avec la nature et une connaissance intime, pas livresque.
Pas livresque. Et pourtant, vous faites bien de d'évoquer ce point maintenant, puisque l'ouvrage de Walden est quand même traversé par des références littéraires qui vont de l'Antiquité jusqu'à des écrivains plus contemporains de Thoreau lui-même. Alors que par ailleurs, il dénonce cette espèce de conformité intellectuelle des étudiants eux-mêmes à Harvard, hein, qui ne savent pas penser par eux-mêmes parce qu'ils sont écrasés par le poids de grands auteurs qui les empêchent de penser par eux-mêmes. Mais en même temps, Thoreau lui-même, lorsqu'il rédige ce livre-là, fait sans cesse des références à d'autres auteurs. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là entre, d'un côté, une utilisation mauvaise du savoir et, de l'autre, peut-être l'impossibilité de s'en défaire complètement ?
Oui, sauf qu'il a un chapitre au début du livre, juste après Économie, qui est sur la lecture. Et un chapitre qui est à la gloire des classiques, des grands ouvrages, et sur la nécessité de les lire, de les travailler, et d'essayer d'y trouver des réponses à des choses qu'on sent confusément, mais qui ont peut-être été exprimées par de grands esprits du passé.
Oui, mais est-ce que ce faisant, Thoreau ne tombe pas sous le coup des critiques qu'il adresse lui-même aux autres étudiants ? On pourrait lui dire qu'il ne pense pas par lui-même non plus, puisqu'il ne peut... Quasiment à chaque page, il y a une référence à un autre auteur.
C'est simplement que lui, il a une expérience et qu'il n'est pas prisonnier de quoi que ce soit. Il choisit de façon éclectique telle phrase qui lui convient et il voit si ça s'adapte à lui. De même qu'il refusait la prédominance de la Bible en disant que toutes les écritures saintes des différents peuples du monde avaient une valeur égale. Donc c'est ne pas être soumis à une contrainte, c'est accepter diverses idées et de les adapter à soi, de sélectionner ce qui convient à soi.
Nous devons apprendre à nous réveiller et à rester éveillés, non par des moyens mécaniques, mais par l'attente ininterrompue de l'aube, laquelle ne nous quitte pas même dans notre plus profond sommeil. Je ne connais pas de fait plus encourageant que la capacité indiscutable de l'homme à élever sa vie par un effort conscient. C'est une chose de pouvoir peindre un tableau particulier ou de sculpter une statue, et ainsi de fabriquer quelques beaux objets, mais il est beaucoup plus glorieux de sculpter et de peindre l'atmosphère même et le médium que nos regards traversent, ce que nous sommes moralement capables de faire. Modifier la qualité du jour, voilà le plus élevé des arts. À chaque homme incombe la tâche de rendre sa vie, jusqu'au moindre détail, digne d'être contemplée à son heure la plus élevée et la plus critique. Si nous refusions, ou plutôt épuisions, les informations dérisoires que nous pouvons obtenir, les oracles nous indiqueraient clairement la marche à suivre. Michel Granger, dans ce texte que je viens de lire, qui est issu du deuxième chapitre de Walden, intitulé « Où j'ai vécu et pourquoi j'ai vécu », on entend l'affirmation d'un projet proprement éthique. Il s'agit de se retrouver soi-même et d'être artiste de sa propre vie. Contempler, faire en sorte que notre vie puisse être contemplée à chaque instant et nous apporte la satisfaction de cette contemplation.
Oui, il passe un certain temps à expliquer que son problème, c'est d'extraire le plus possible de la vie, de ce qu'il contemple, de la vie ordinaire, des faits ordinaires. Et c'est justement sa capacité à exploiter, à tirer son miel des faits ordinaires qui va enrichir sa vie. Alors que la majorité des gens passent à côté des petites choses, dans les petites choses, les lichens par exemple, choses banales qu'on ne voit pas. Et lui tire la qualité et la substance d'une journée de la contemplation d'un lichen.
Et il dit d'ailleurs par ailleurs que si on arrive à se défaire des illusions et des impostures, on découvre alors que notre vie peut être fabuleuse. Et je crois que c'est même le terme qui est employé dans la traduction. Fabuleuse dès lors que l'on parvient à regarder ce qu'il y a devant nous. Et c'est toute l'importance de l'ordinaire, vous l'avez évoqué à l'instant. L'ordinaire, la notion même d'ordinaire, dont Stanley Cavell, le philosophe américain Stanley Cavell, va investir de toute une réflexion philosophique. Stanley Cavell qui a écrit un texte sur Thoreau, sur Walden, qui s'appelle « Le sens de Walden », et qui montre cette attention portée à l'ordinaire, Michel Granger.
Qui permet de voir que la nature est fabuleuse, c'est-à-dire que si fabuleuse veut dire aussi qui permet de raconter des fables, et qui est donc quelque chose, à partir du moment où on l'aperçoit bien, devient l'objet d'un travail littéraire. Et donc d'une communication, d'un dialogue avec d'autres personnes, avec des lecteurs, à travers ces fables de la nature.
Et on peut comprendre peut-être en ce sens aussi son désir de se défaire de la conformité imposée par la société, puisque c'est elle qui nous détourne le regard qui nous détourne le regard de notre propre vie et donc de notre propre ordinaire. C'est tout le paradoxe de l'ordinaire, c'est à la fois ce qui constitue notre vie et pourtant c'est ce à quoi nous accordons le moins d'importance.
Oui. On pourrait jouer sur les mots et dire que la société, c'est la langue de bois, et lui, Thoreau, cherche à découvrir la langue des bois. D'ailleurs, à certains moments, il parle du langage de la nature. Et c'est ce qu'il cherche à apporter dans sa littérature, dans ses écrits, c'est faire entendre autre chose que les phrases conventionnelles, les stéréotypes de la société. C'est donc une affaire d'ouverture. Et j'ai bien aimé la citation que vous avez donnée, qui inclut le mot « réveiller ». Il s'agit de réveiller les gens qui dorment, qui ronronnent, et en leur apportant ce que lui peut glaner dans la nature.
Il file cette métaphore-là du réveil, de l'aube, du matin. Il dit que chaque vie, chaque instant devrait être comme un matin, ce matin où on sort du sommeil. Il y a là pendant une heure, écrit-il, c'est l'heure qui suit le réveil et l'heure de la journée où le sommeil est le moins présent. Et du coup, nous sommes extrêmement réceptifs à la nature autour de nous.
Et ce qui montre bien que la solitude, qui est le thème de cette émission, la solitude, c'est un détour. Passer par la solitude pour retrouver soi et retrouver le contact avec autrui. Pouvoir réveiller autrui à partir de ce qu'on est allé trouver dans la solitude au milieu de la nature.
Mais alors comment le contact avec autrui va-t-il s'établir dès lors qu'il rejette toute une dimension de la société qu'il trouve oppressante ?
Alors, dans le village, il avait quand même quelques contacts. Il avait les intellectuels, les transcendantalistes. Il avait les pêcheurs, il avait quelques fermiers avec qui il avait des contacts, qui lui donnaient des informations sur la société. Il ne vivait pas tout seul. Et puis, il y a l'écriture. Il y croit beaucoup, puisqu'il a écrit. Il donnait aussi des conférences, périodiquement, une sorte de maison de la culture de Concorde. Donc, il n'était pas du tout enfermé en lui-même. Il cherchait bien le contact avec autrui.
Et effectivement, c'est important d'insister là-dessus, puisque la solitude, et si vous dites qu'elle n'est qu'un détour, c'est donc bien qu'elle n'est pas une fin en soi et que le but ultime n'est pas du tout d'être seul, on y revient, seul au milieu de la nature, dans un état sauvage, illusoire et mythique, mais au contraire, d'en revenir à une forme de sociabilité. Il écrit lui-même dans Walden, hein, « J'avais trois chaises dans ma maison, une pour la solitude, deux pour l'amitié, trois pour la société. » Y compris dans la cabane qu'il va construire au fond des bois, il fait une place à la société.
Une petite place.
Une troisième chaise, elle est à égalité de la solitude et de l'amitié.
Oui, mais la première est celle pour lui, parce que c'est sa table de travail. L'amitié, une fois de temps en temps, la société, plus rarement. mais elle a sa place. Il lui ménage une petite place.
Et dans quelle mesure est-ce que la société et la nature sont complètement antagonistes? Puisque vous avez dit le détour par la solitude et donc par la nature est provisoire, est-ce qu'il propose lui-même une façon d'instaurer une forme de communauté qui prenne en compte et l'importance de la nature et l'importance de la solitude nécessaire au sein de la société?
Non, très peu. La préoccupation de la société est minimale chez lui, en dehors de construire un individu qui soit un individu plus riche, qui ne soit pas, en somme, diminué par la société. Alors, il y a quelques tentatives de proposer quelque chose, comme par exemple lorsqu'il imagine les sorties des gens du village dans la nature pour aller cueillir des baies. Ce sont des petits moments de vie collective, mais c'est très limité. De même que les moments de protestation contre l'esclavage ne sont que des petits moments de sa vie en société.
Qui dénote quand même une forme de conscience politique qui n'est pas du tout absente de sa réflexion. Oui. Et c'est tout le sens du perfectionnisme moral donc là je renvoie également à Emerson, dont on a un peu parlé, c'est de montrer qu'il ne peut y avoir de changement véritable en société mais également en politique que s'il y a à l'origine un changement personnel et individuel. Oui. C'est-à-dire que toute action politique n'aura pas de sens si elle est contrainte, si elle est idéologiquement contrainte, alors qu'elle aura un sens si le changement se fait de manière morale à l'échelle individuelle. Mmh. Et donc, il ne faut pas voir dans cette pensée une forme de repli sur soi, de rejet de la société, de repli sur soi, puisque la société serait condamnée entièrement. Au contraire, le retour, qui n'est pas un repli, le retour à soi, a pour but, alors peut-être un but qui n'arrivera pas dans la vie de l'individu lui-même, mais a pour but de donner lieu à une société qui elle-même soit plus saine et plus cohérente.
C'est un premier temps et qui a pour suite le fait que on aura quand même trouvé beaucoup de lecteurs et des lecteurs qui s'en inspirent. Il y a toute une tradition culturelle américaine de construire sa cabane dans les bois et de vivre un certain temps comme Thoreau. Alors c'est une erreur d'une certaine façon, mais ça montre bien qu'il a, une descendance, une influence sur certaines personnes. Mais ça n'est pas une influence sur la société, c'est une influence sur quelques individus, sauf si on prend en compte tout le message sur la frugalité, la simplicité volontaire, qui a beaucoup d'intérêt à notre époque.
Merci Michel Granger de nous avoir parlé de Henri David Thoreau, ou Thoreau pour les Américains. Nous terminons avec vous cette semaine sur la solitude et je renvoie les auditeurs à cette magnifique édition du Well Done de Thoreau. Il faut vraiment le dire parce que c'est un très très beau livre, un beau livre même esthétiquement et qui est très bien fait avec une traduction fidèle au texte et agréable à lire. C'est donc à la maison d'édition Le Mot et le Reste. La traduction est de Brice Mathieu Sang, la préface de l'auteur américain Jim Harrison. Et vous avez contribué à cette édition, Michel Granger. Vraiment, chers auditeurs, allez-y sans aucune réserve. On mettra toutes les références en ligne sur le site internet.
Yeah.
Heureusement qu'il y a The Police pour se sentir moins seul, et aussi François Nodelman, puisque c'est l'heure du journal de la philosophie, il est 10h50. Bonjour François Nodelman.
Bonjour Adèle, nous allons parler aujourd'hui de Sartre. Sartre qui n'a cessé depuis sa mort d'être l'objet de polémiques continuelles, surtout en raison de ses engagements politiques. Et pourtant sa relation au mouvement révolutionnaire a été très complexe. C'est ce que nous montre notamment Yann Birchall dans « Sartre et l'extrême gauche française, 50 ans de relations tumultueuses » publié aux éditions La Fabrique. Yann Birchall, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être donc en duplex avec Londres où vous enseignez. Vous prenez un sujet qui touche beaucoup la France, la politique française, mais la philosophie est française. Cet engagement de Sartre, il faut rappeler peut-être qu'il date surtout de la bascule qu'a été la guerre pour lui, la Deuxième Guerre mondiale, non ?
Oui, mais même avant la guerre, Sartre avait des contacts assez intéressants avec la gauche. On a assez parlé de ses rapports avec Paul Nizan, qui était militant communiste. Ce qu'on a moins discuté, mais pour moi est très important, ce sont les rapports qu'il a eus pendant les années 30 avec Colette Audry, qui était une militante pivertiste, une militante de la gauche révolutionnaire.
Il faut rappeler que c'est le trotskisme tendance Marceau-Pivert. Hein.
Elle n'était pas exactement trotskiste, mais c'est une nuance, oui. Mmh. Mais elle a par exemple écrit un article très intéressant au sujet de Heidegger et les rapports entre Heidegger et le fascisme. C'est Colette Audry qui a été, je pense, la première à proposer à Simone de Beauvoir d'écrire un livre sur l'oppression des femmes. Donc je pense que l'influence, même avant la guerre, de Colette Audry sur Sartre est quelque chose d'assez important et qui a été assez peu remarqué par les biographes de Sartre.
Oui. Alors Sartre se décrit lui-même un peu comme une sorte d'anarchiste, de libertaire, individualiste avant la guerre. Et puis il y a cette découverte du collectif lorsqu'il est emprisonné en Allemagne. Puis ensuite, c'est la relation, la découverte du marxisme, la tentative plutôt d'inventer un marxisme non stalinien, non dogmatique. Mais malgré tout, c'est un compagnonnage avec le Parti communiste français.
Oui, mais seulement pendant une période assez courte, entre 52 et 56. Et Sartre lui-même, il a dit qu'il faisait une alliance avec le Parti communiste sur la base de ses propres principes et non pas sur la base de leurs principes à eux. Et même pendant cette période, il y a de certaines frictions, surtout lorsque Jean Canapa a écrit un article très critique, encore une fois, au sujet de Colette Audry, et que Sartre a répondu de façon assez méchante dans un petit texte qui s'appelle « Opération Canapa ».
Qui commence, me souvient-il, par « Il faut plus d'une hirondelle pour annoncer le printemps et plus d'un canapa pour déshonorer un parti ».
Oui, c'est ça, c'est ça.
Oui. Alors, comment expliquer que Sartre, malgré tout, n'ait pas eu vraiment de relation avec la gauche antitotalitaire, avec des gens qui pouvaient avoir des idées proches, hein ? Je pense à Castoriadis, au groupe Socialisme et Barbarie. Pourquoi cette absence de dialogue ?
Il y a quand même un dialogue avec ces gens-là. Il faut se souvenir que Claude Lefort, qui a été fondateur de Socialisme ou Barbarie avec Castoriadis, a écrit ses premiers articles dans les temps modernes. Oui. Il a été encouragé par Merleau-Ponty, mais je pense que Sartre aussi était bien content.
Mais on sait la réponse à Claude Lefort, qui était aussi d'une violence inouïe à l'égard de ce jeune Lefort.
Oui, mais c'est quand même un dialogue, il a pris le fort au sérieux, il a bien voulu lui répondre.
Oui. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que Sartre s'est sans arrêt engagé, qu'il a sans arrêt soutenu jusqu'à la fin de sa vie des mouvements généralement révolutionnaires, mais qu'il n'a jamais adhéré ?
Ah oui, à part peut-être quelques exceptions, il n'a même pas voté. Oui, c'est un problème chez Sartre et je concède volontiers que ça pose des problèmes pour comprendre l'évolution politique de Sartre.
Oui.
Mais que quand même, il a pris parti dans beaucoup de luttes, il a été présent.
Oui, bien sûr. On attaque bien sûr de nombreuses prises de position de Sartre. Est-ce qu'on peut dire que il a toujours pris un risque, le risque aussi de l'erreur, en étant dans un engagement presque spontané ou étant dans l'actualité la plus immédiate.
C'est vrai, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est très important pour Sartre, et c'est la proposition de Karl Liebknecht, l'ennemi principal est dans notre propre pays. Je pense que pour Sartre, la priorité était toujours de s'attaquer à la bourgeoisie française. C'était plus important pour lui de s'attaquer à l'impérialisme français que de s'attaquer à ce qui se passait en Union soviétique.
N'y a-t-il pas un problème à juger rétrospectivement un auteur à partir de nos critères d'aujourd'hui ? C'est-à-dire, voilà, on dit, voilà, il s'est trompé, ou bien là... Et d'ailleurs, vous ne vous privez pas de le faire, parce que vous êtes souvent dans le jugement. Mais est-ce qu'on peut être dans le jugement si on veut rendre compte quand même, avec une certaine empathie, des circonstances, quand Sartre dit « les vérités sont devenues », c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de vérité en soi, les vérités sont toujours en situation, est-ce que ce n'est pas un problème de juger ?
Oui, c'est toujours un problème pour un historien. Et bien sûr, il ne faut pas se mettre dans la position de dire « Ah oui, Sartre a fait des fautes, mais c'était très simple et il aurait dû faire ça ». Bien sûr, l'historien a un certain avantage de pouvoir regarder le passé. Alors il faut d'un côté comprendre les difficultés qui existaient pour les gens de gauche à cette époque. Ce n'était pas si simple que certains critiques de l'époque présente pourraient croire. Mais en même temps, si on veut apprendre quelque chose de l'histoire, bien sûr, il faut faire des jugements. Ce n'est pas la peine de tout simplement raconter l'histoire, raconter les événements.
La comprendre, mais bon. Dans votre dernier chapitre, il est un peu rapide, je trouve, parce que c'est le moment où Sartre donc, est en relation avec l'extrême-gauche maoïste. Oui. Pourquoi justement choisit-il plutôt les Mao que les trotskistes ? N'y a-t-il pas ici une permanence chez lui de l'anti-autoritarisme et aussi d'une position morale, paradoxalement ? Les deux semblent liés chez lui.
Sartre, bien sûr, a dit qu'il n'était pas Mao, mais il a dit qu'il a trouvé des rapports humains plus sympathiques chez les Mao que chez les trotskistes. Je suis pas en position de juger ça. Mais je pense, oui, que vous avez bien raison, que c'est la question morale, une question qui a toujours été très importante pour Sartre depuis les années 40, et qu'il a trouvé que les idées morales étaient peut-être plus au centre des préoccupations des Mao que des trotskistes.
Merci beaucoup, Yann Birchall. Je rappelle le titre de votre livre, Sartre et l'extrême-gauche française, aux éditions de La Fabrique. On peut vous retrouver le samedi 22 octobre de 14h à 17h au séminaire Marx au XXIe siècle, et ça se passe à la Sorbonne, amphithéâtre Lefebvre.
Merci François, ainsi s'achèvent les nouveaux chemins. Mais pas d'inquiétude, on se retrouve non pas demain, mais lundi. Puisque demain, comme tous les vendredis, ce sera Philippe Petit aux commandes des nouveaux chemins. Philippe Petit qui parlera d'images et de ce qui arrive en images et qui recevra à cette occasion Marie-Josée Mondzin, auteur d'un livre intitulé « Images à suivre » chez Bayard. Quant à nous, on se retrouve lundi à 10h pour une nouvelle semaine qui portera cette fois sur quatre penseurs oubliés du 19e siècle, mais dont la pensée justifie qu'on s'y arrête le temps d'une émission. Car la postérité n'est pas toujours le meilleur indicateur de la qualité d'un travail. En l'occurrence, si les noms de Destu de Tracy, Royer-Collard, Maine de Biran et Joseph de Maistre vous évoquent des personnages de romans de cap et d'épée plus que des philosophes, alors ces émissions s'adressent à vous. Nous allons les découvrir ensemble, en direct du studio 168 de la Maison de Radio France, la semaine prochaine. À l'issue de cette semaine, je remercie chaleureusement Christelle Wurmser, dont la voix nous a accompagnés toute cette semaine. Et je vous signale, je le fais tous les jours, que si vous voulez réécouter cette émission, c'est possible pendant 500 jours en vous rendant sur le site franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins. Et vous pourrez également télécharger ou podcaster cette émission pour pouvoir l'écouter à tout moment et à votre rythme.